Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, cette partie politique membre de la majorité présidentielle interpelle le président Joseph Kabila, autorité morale de la MP, sur la situation politique de l'heure. Dans cette lettre ouverte qui porte la signature du MSR Yves Mobando, de l'ARC Olivier Kamitatou, du PDC José Endundo, de l'ARCO Banza Maloba, de l'UNAFEC Gabriel Kyungwa Kumanza, de l'UNADEF Charles Mwando Simba et de l'ADP MSDD Christophe Lutundula, ces auteurs plaident pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel qui aboutissent à l'alternance politique en RDC. On écoute Gabriel Kyungwa Kumanza, président de l'UNAFEC, donner le résumé de la dite lettre.
Dans cette lettre, nous relevons quelques faits qui risquent de faire dérailler les trains. Notamment, cette histoire, vous connaissez vous-même maintenant, c'est en vogue, les glissements. Mais ça, c'est dangereux. Nous avions combattu la dictature dans ce pays et nous ne pourrons plus, mais nous ne pourrons jamais accepter qu'il y ait des velléités dictatoriales à travers certaines décisions, à travers certains faits qui nous inquiètent.
Au point 22 de votre déclaration, vous dites, je cite, que la majorité présidentielle devra s'atteler à préparer en toute sérénité et en conformité avec sa charte les prochaines élections dans la perspective de l'alternance politique. Fin de citation. Que sous-entendez-vous? La majorité devrait-elle se trouver un autre candidat en dehors de Joseph Kabila pour 2016?
Mais pourquoi pas? Pourquoi ça doit être un tabou que de parler de l'alternance, et pourtant c'est consacré dans la Constitution.
En réaction à cette correspondance, le sénateur de la majorité présidentielle, Léonard Cheokitundu, parle du déjà entendu, car dit-il, il ne s'agit pas de la première lettre de ce groupe. C'est la troisième qui reprend les mêmes préoccupations que les précédentes. Et ces préoccupations font partie des objectifs à discuter au dialogue. C'est pour cela qu'il faut dialoguer, répond ce cadre de la MP. Léonard Cheokitundu est au micro de Jeff Ngoy.
La majorité, comme vous le savez, elle est diverse, elle est hétérogène. C'est pas la première fois que le groupe dit de 7 s'exprime. Il s'est déjà exprimé au début de cette année, vous savez, par deux correspondants qu'ils ont adressés au chef de l'État. Et cette fois-ci, ils envoient encore un autre courrier et qui répète presque à peu près la même chose. Mais vous comprenez, toutes ces questions-là, à la fois au sein de la majorité et même en ce qui concerne l'opposition, ce n'est pas pour rien que le président de la République a accepté, effectivement, de consulter tout le monde et de préparer ce fameux dialogue national au cours duquel nous allions aborder toutes ces questions et puis ensuite définir la manière dont les choses vont se passer par la suite.
Maintenant, quel sort est réservé au groupe des 7?
Bon, écoutez, ça c'est, on est au sein de la majorité, il y en a un règlement intérieur. Je crois que bientôt il y a une réunion d'ailleurs que du bureau politique est convoqué, comme il a été fait lors de leur premier exercice. Je crois qu'il y aura un débat au sein du bureau politique. Le bureau politique nécessairement va en tirer les conséquences.
Honorable Mouindo Nzangi, vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire MSR et allié à l'Assemblée nationale. Honorable, quel sens le G7 donne-t-il à cette lettre ouverte adressée au président de la République?
Il faut citer cette lettre dans les temps. Vous savez, c'est la deuxième fois ou la troisième lettre qui est adressée par ce groupe formel des partis politiques de la majorité présidentielle au chef de l'État pour essayer de sonner la sonnette d'alarme à ce moment très précis où le pays est en train effectivement d'avancer vers une alternance politique. Et les MSR avaient commencé à juillet 2014 à donner sa position lorsque certains acteurs politiques de la majorité présidentielle avaient commencé à faire des discours du genre, il faut un troisième mandat, on va faire un référendum. Il faut qu'on permette au président de la République de se représenter encore. À ce moment-là, nous avions sonné la sonnette d'alarme pour dire que la majorité présidentielle ne s'est pas encore réunie pour définir ce qu'il doit faire pour l'avenir du pays. Et la charte de la majorité présidentielle prévoit que lorsqu'on doit prendre une position à ce qui concerne l'avenir de la nation, il faut absolument qu'il y ait une concertation préalable. C'est dans cette logique-là que le MSR a trouvé qu'il y avait d'autres personnes au sein de la majorité qui réfléchissaient comme lui, a pu trouver la façon de créer un petit groupe informel pour essayer de réfléchir ensemble sur les questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que malheureusement, après les 2, 3, 4 réunions qui se sont tenues de la majorité présidentielle pour discuter de la question. Au lieu d'aborder la question des fonds, cette question des fonds n'a pas été abordée. On a seulement fait des réunions pour parler, mais on n'a pas touché les problèmes fondamentaux.
Et donc, il n'y a pas de débat interne au sein de la majorité. C'est pourquoi vous préférez mettre tout sur la place publique.
Ce débat interne-là n'a pas été débat sincère. Et nous avons observé la situation, croyant que nous avions été compris. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui nous met dans des flous. Et flou, pas seulement pour nous les acteurs politiques de la majorité présidentielle, mais la nation congolaise tout entière. Nous attendons maintenant déjà des discours de tels qu'il faut absolument tout en dire à noter, il faut absolument qu'il y ait glissement, il faut faire ceci pour 3 ans. C'est pour cela que nous avons voulu effectivement remettre les choses sur les rails pour dire attention, les schémas que nous voulons aborder maintenant, que nous voulons suivre, c'est un schéma dangereux, c'est un schéma suicidaire. Si nous les suivons comme ça, nous allons tomber dans un gouffre. Il faut absolument que quelque chose soit recadré, qu'on retourne sur le bon rail, le schéma des élections.
Alors revenons sur le fond de votre déclaration. Le point 13 dit « La gravité de la situation et les risques qu'elle fait peser sur l'avenir de la RDC appellent des initiatives politiques courageuses, aussi bien de votre part, c'est-à-dire de la part du président de la République, que celle de la majorité présidentielle. Quand vous vous adressez au président de la République sur ce point, voulez-vous par exemple que le président annonce clairement qu'il ne sera pas candidat en 2016 ?
Ça devrait se faire de soi. Vous savez, lorsque les gens disent que nous allons au dialogue, nous, on croit que le dialogue, on y va pour préparer les élections correctement. Mais alors, avant d'aller au dialogue, il y a des discours qui commencent à prendre une autre direction. Les gens commencent à dire, voilà, on peut avoir un président de la République, même si les élections ne sont pas tenues en 2016, on aura toujours un président qui sera remplacé par un autre président. Lorsque ce genre de discours sont tenus par des personnes hautement placé dans la majorité présidentielle, c'est un discours très dangereux, puisque la Constitution a déjà prévu que le mandat, c'est pour 5 ans. Et pour ce qui est du président de la République, garant de la nation, on n'a pas le droit de faire le glissement. On n'a pas le droit de dire que voilà, ça va se tenir une année ou deux ans après le délai constitutionnel. C'est la Constitution qui l'a prévu. Et c'est pour cela que nous avons demandé à ce point-là qu'il nous faut prendre des décisions courageuses. Déjà, par exemple, sur la majorité présidentielle, ouvrir un débat pour dire comment organiser l'alternance interne.
Et là, c'est au niveau de la majorité, mais au niveau du président de la République, il doit annoncer qu'il ne sera pas candidat.
Ce qui est courageux, c'est de dire qu'il doit préparer au sein de la majorité présidentielle qu'il y ait un débat franc pour trouver une alternance crédible. C'est une décision courageuse. La deuxième décision courageuse, effectivement, c'est celle que vous dites. Les choses doivent être claires. Les gens ne doivent pas évoluer dans des flous. Il faut absolument qu'ils soient clarifiés, que la Constitution a déjà prévu que c'est deux mandats, et après les deux mandats, il faut absolument qu'il y ait une alternance politique.
Alors, au point 22, je vais juste lire un extrait. La stratégie actuelle nous paraît suicidaire, et donc vous confirmez que le glissement était la stratégie adoptée au niveau de la majorité.
C'est la stratégie que nous observons. Telle que nous observons les faits, il se peut qu'il y a une stratégie de glissement. Elle a déjà été, nous l'avons dénoncée en février, puisque nous avons trouvé que l'astuce qu'on avait introduite dans la loi électorale, c'était pour permettre qu'il n'y ait pas les élections en 2016. Et ce que nous observons aujourd'hui, notamment la cacophonie autour de la CENI, où une élection de gouverneur de province, par exemple, on n'est pas capable de l'organiser. Alors que l'électorat, c'est 16 députés provinciaux, on nous démontre que le gouvernement de la République n'est pas capable d'acheter des papiers pour voter les gouverneurs de province ou avec un électorat de 15, 20, 25 députés. Ça pose un problème, ça frustre et ça démontre effectivement qu'il n'y a pas la volonté d'organiser les élections. Et ça, c'est une stratégie pour aller au glissement. C'est ça que nous dénonçons, nous disons, c'est inquiétant, mais c'est suicidaire, puisque la stratégie du chaos, elle ne peut pas être à l'avantage de ceux qui gouvernent.
Alors, au point 1, je vais lire un autre extrait avant de donner la parole à l'ambassadeur Atundu. C'est ici l'occasion pour nous, Monsieur le Président de la République, de rappeler et de réaffirmer que le partenariat que nous avons engagé il y a 10 ans repose sur les valeurs républicaines et démocratiques inscrites dans la Constitution du 18 février 2006. Le Président de la République, autorité morale de la majorité, a-t-il violé ce partenariat ?
Si le schéma de glissement est le schéma qu'on a choisi pour l'avenir du pays, alors ça aura été une grave violation du partenariat. Pour l'instant, le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur quoi que ce soit. Mais les faits que nous observons
Montre qu'il y a péril en la demeure.
Montre qu'il y a péril en la demeure et c'est urgent que nous puissions sonner à cet estat ici pour retourner sur le bon chemin.
Monsieur l'ambassadeur André-Alain Atundu-Liongo, vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR. Comment vous analysez cette correspondance adressée au chef de l'État?
Bon, d'abord, je salue les auditeurs, je salue l'honorable, ainsi que le professeur. D'abord, il y a des observations de forme à faire. La lettre est adressée au président de la République, alors qu'elle aurait dû être adressée au secrétaire général de la majorité présidentielle, éventuellement avec copie pour information au président de la République. Parce que l'autorité qui nous dirige, c'est le secrétaire général. Et donc, il faut d'abord reconnaître son autorité sur ce plan-là. Deuxième remarque, c'est que l'honorable a dit que le MSR a cru bon de créer un sous-groupe. Les textes de notre statut ne nous permettent pas d'avoir de sous-groupe statutaire. Je crois que cela a été rappelé, avait été rappelé à l'occasion de l'heure de correspondance précédente. Et donc, ce n'est pas un comportement statutaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur RFI, et dans l'opinion d'ailleurs, ils sont présentés comme, et d'abord sur le plan de la forme, tous ce sont des membres du bureau politique, sauf peut-être Lutundula. Et donc, ils avaient l'occasion de se battre à l'intérieur du bureau politique.
Mais l'honorable Nzeng a clairement dit... L'honorable Nzeng a dit que le débat en interne n'était pas sincère au sein de la majorité. Sur ces questions, il y avait déjà deux précédentes lettres.
Je ne sais pas ce que ça signifie un débat sincère, mais je note. Je note que ils sont présentés comme des frondeurs. Les frondeurs en politique, c'est un groupe minoritaire, presque minuscule, qui ne parvient pas à imposer son point de vue par les voies de négociation, de dialogue, de discussion, bref, par les voies démocratiques ordinaires. Vous connaissez le sort des frondeurs en dans le Parti Socialiste Français.
Alors revenons au fond, honorable, monsieur l'ambassadeur. L'honorable Nzeng, à qui je posais la question tout à l'heure, au point 13 de leur déclaration, il demandait par exemple que le président de la République ouvre le débat sur l'alternance au sein de la majorité, qui se prononce clairement qu'il ne va pas être candidat en 2016.
Je suis tenté de penser que les auteurs de cette pensée ou de cette interprétation ne sont pas... n'ont jamais fait partie de la famille présidentielle. Nous avons un mandat. Le président de la République s'exprime en fonction des impératifs de son devoir et de sa conscience républicaine. Personne ne peut obliger le chef de l'État aujourd'hui, en tant que citoyen et garant des institutions, de dire « prononcez-vous ». Mais c'est une ce serait vraiment se prononcer sans grande considération sur les conséquences. Donc je pense que là n'est pas le débat. Le débat, c'est que je suis étonné qu'après deux correspondances et des observations, ou même des remarques, sur la nécessité d'avoir une certaine discipline, eh bien, il est récidif. Or, la démocratie, c'est bien sûr la liberté d'expression garantie par les articles 22 et 23, mais le bon fonctionnement de la démocratie dépend de la discipline républicaine. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui ce que vous avez voté hier, ce que vous avez décidé hier, il y a un problème. Il y a d'abord un problème de loyauté au sein du groupe. Il faut avoir ce comportement. Et ça, c'est de un. De deux, est-il nécessaire d'exposer ce débat en public ? Au nom de la transparence, au nom de quoi?
Et donc, il n'y a que deux options. Soit on s'était, soit on démissionne.
Non. On s'était pas, on démissionne pas. On s'exprime dans un cadre convenu. Ils sont membres du bureau politique, ils doivent s'exprimer au bureau politique. Si d'aventure, ils estiment ils sont entendus, mais ils ne sont pas suivis. Mais si, d'après eux, le débat n'est pas sincère, on s'adresse au chef de l'État et on attend que le chef de l'État s'exprime. À peine a-t-on adressé la lettre au chef de l'État que les médias publics s'en saisissent, on en parle, voilà, le chef de l'État, ça jette un émoi inconsidéré au sein de l'opinion, et je ne sais pas si c'est vraiment responsable de notre part de faire cela.
Monsieur l'ambassadeur, au point 22, je posais une fois de plus la question à l'honorable Nzangui. Dans la correspondance, il est dit que la stratégie actuelle nous paraît suicidaire jusque-là au niveau de la majorité. Vous avez nié cette stratégie du glissement, mais là, ce sont des membres de la majorité qui la dénoncent.
Mais c'est d'autant plus grave que ce sont des membres du bureau politique. Moi, je n'ai jamais entendu ou vu un communiqué ou même une instruction, allez, éventuellement, une recommandation de la part des autorités compétentes de la majorité présidentielle préconisant ce que l'on appelle indûment le glissement. Personne. Et on n'a jamais parlé de
l'avenir. Il semblerait que ça s'observe dans les faits.
Ça s'observe. Ça, ce sont des présomptions. Et les présomptions sont souvent à la source des malentendus. Et les malentendus sont source de conflits. Alors, il faut éviter d'agir sur base de sous-entendus, générateurs de malentendus, générateurs de conflits. Il faut agir sur les faits. Lorsque vous avez un doute, vous interrogez. Si la personne dit, bah, écoutez, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue mon mandat. Il faut se conformer à ce qu'il dit.
Alors, on est à quelques mois des élections. Il ne reste plus beaucoup de temps, autant qu'on le pense. Le président Kabila ne devrait-il pas déjà présenter son dauphin, par exemple?
Mais pourquoi? Pourquoi devrait-il? Mais est-ce que c'est une obligation constitutionnelle? Ça, c'est de un. Et dites-moi, pourquoi le président Kabila doit présenter un dauphin? Mais nous sommes en République. La République ne connaît pas de dauphin. Et si, pour l'histoire, je vous dirais que le dauphin n'a jamais longue vie.
Merci.
Pensez à M. Yass du temps de Fouette-Boigny. Pensez à beaucoup d'autres, même ici, Sakombi, chez nous, à un moment donné. Merci. Était dauphin de Mobutu. Non, ne nous embarquez pas dans ce débat.
Nous ne sommes pas du tout raison.
Une République. Ils ont raison de penser comme ils veulent. Mais ils n'ont pas raison de vouloir imposer leurs pensées.
Merci. Professeur Alphonse Mahindo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, comment vous analysez cette démarche, cette partie politique de la majorité présidentielle?
Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux éléments importants que je voudrais évoquer à ce niveau de débat. Je pense que, premièrement, il faudrait saluer le courage politique des signataires de ce courrier, de cette correspondance, qui permet de nourrir le débat politique sur une question d'actualité, c'est à savoir est-ce que le président actuel va se représenter ou va pas se représenter, est-ce qu'on va organiser les élections dans les délais constitutionnels ou pas, est-ce qu'il y aura glissement, pour reprendre les mots qui est devenu très en vogue en ce moment. Alors, donc, il faut saluer ce courage-là de nourrir le débat en ce moment. Mais en même temps, dans un deuxième temps, on peut s'interroger sur les moments choisis pour faire la correspondance, sur l'opportunité d'une telle correspondance, même l'intention des signataires. Parce que ces gens qui ont signé cette correspondance font partie quand même, pour un certain nombre d'entre eux, des institutions, des hautes institutions de la République. Donc, ils ont l'opportunité de pouvoir débattre de ces questions, de pouvoir proposer des solutions, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, soit dans les assemblées provinciales ou au gouvernement. Et je remarque aussi que certains d'entre eux sont membres du bureau politique de la majorité présidentielle, donc ils auraient pu débattre la question là-bas. Alors, donc, on peut se demander sur ce qui les préoccupe véritablement. Est-ce que c'est le vrai souci du bien-faire, du bien-être de la population congolaise ou pas? Ou c'est simplement un souci de repositionnement par rapport à la situation politique, puisqu'il y a, on suit un peu la conjoncture actuelle et puis on essaie de se repositionner. Et quand on voit les passés politiques de certains des signataires, on peut se demander, parce qu'ils ont soutenu quelquefois des dictatures ou ils se sont appuyé sur tel ou tel régime. Je pense à certains qui ont travaillé avec le régime de Mobutu. Ils ont combattu, après ils ont rallié Mobutu. Alors, mais ce qui, l'autre élément que je voudrais quand même ajouter ici, c'est que si vous êtes dans une famille politique, vous êtes des amis, c'est pendant les moments difficiles. Si en ce moment, majorité présidentielle est en difficulté, ce n'est pas le moment de l'équité. On reconnaît ses vrais amis pendant les moments difficiles. Et les amis, ils lavent leur linge sale en famille, et pas sur la place publique. Et donc là, on peut se poser des questions aussi, hein, en ce moment de turbulence politique. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur l'intention ou non du président de la République de se représenter. N'est-ce pas peut-être un procès d'intention, puisqu'il n'a pas encore dit. En ce moment, il n'a pas encore dit s'il se représenterait ou pas. Est-ce que son silence veut dire que j'y suis et j'y reste, ce que semble dire l'opinion publique en ce moment, ou est-ce que c'est que le président, il dit « Oui, je vais partir, mais je dois finir d'abord mon mandat, j'ai été élu pour 5 ans, j'ai fini donc mes 5 ans, donc avant que les 5 ans ne s'épuisent, donc je ne m'occupe pas de tout ce qui se passe, là, et donc je ne fais pas de dauphin, parce que je ne trouve pas quelqu'un pour me succéder, il n'y a pas quelqu'un de digne qui puisse continuer mon œuvre, alors donc je ne m'occupe pas de ça, je fais mon boulot jusqu'à la dernière minute de mon mandat. » Alors, donc on est là dans une situation où, pour revenir un peu, pour remettre ça dans un cadre un peu plus global, c'est ce qu'on appelle en sociologie politique la pathologie du pouvoir. On a d'une part les stratégies du chef qui veut, donc, qui consiste à conserver le pouvoir, donc l'intransmissibilité du pouvoir, et d'autre part, on a la stratégie du dauphin qui est dans la convoitise du pouvoir et qui voudrait prendre le pouvoir à la place du chef. Donc peut-être qu'on assiste à ça en ce moment au sein de la majorité présidentielle. Voilà.
Professeur.
Et quand on est comme ça en opposition, oui.
Et donc, si je comprends votre propos, il faudrait émettre quelques réserves en attendant que l'avenir nous donne un peu plus d'informations sur les intentions réelles des signataires.
Oui, je pense qu'il faut quand même prendre ça avec beaucoup de réserves par rapport à ce qu'il y a là, puisque il me semble que c'est des gens qui ont quand même la possibilité de pouvoir exprimer leur point de vue à l'interne et qui ont participé au pouvoir. Quand on regarde aussi les passés de certains d'entre eux, on peut s'interroger sur leur bonne intention, voyez-vous. On peut se poser des questions sur ça. Alors moi, j'attendrai un peu de voir un peu plus clair pour savoir s'ils sont vraiment dans la logique de défendre la Constitution, de défendre les respects des règles du jeu politique, où ils sont seulement dans une logique de positionnement pour eux-mêmes prendre la place du calife, à la place du calife.
Professeur Mahindo, c'est la troisième lettre qui est adressée au président de la République. De votre point de vue d'analyste, pensez-vous que cette option ou cette stratégie d'adresser des lettres ouvertes au président de la République est-elle efficace de la part du G7?
Bon, alors moi, c'est là que je trouve un peu curieux cette manière de fonctionner, quoi. Vous faites partie d'une famille politique. Je disais tout à l'heure, le linge, ça, c'est lave en famille. Vous faites partie d'une famille politique. Et à ma connaissance, quand vous avez des problèmes en famille, vous essayez de parler de ça en famille pour essayer de résoudre ça. Mais si ça marche pas, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider à trouver des solutions à ça. À ma connaissance, cela n'a pas été encore fait. Et donc, le fait de mettre sous la place publique les dissensions internes de la majorité, de la famille politique du chef de l'État, et d'appeler donc le peuple à témoin ou la communauté internationale, ça me paraît un peu suspect, voyez-vous, que cela soit porté. Puisqu'ils avaient la possibilité, et ils ont toujours la possibilité de régler ces problèmes à l'interne.
Merci.
Et peut-être que s'il n'y a pas de débat à l'interne, alors là, voyez-vous, la meilleure chose à faire, au lieu de continuer à faire des lettres et des lettres,
merci,
c'est de dire ouvertement, cette famille politique ne répond plus à ce pourquoi nous l'avons créée, et de ce fait, nous en tirons les conséquences.
Merci.
Nous quittons cette famille politique, nous partons.
Merci, professeur.
Et on ne peut pas continuer à dire qu'on fait partie de cette famille politique, on ne partage plus les opinions de cette famille
merci,
politique-là.
Professeur. Merci, professeur. Honorable Nzangi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Moi, c'est Maître Pepe Mikwa, je vous appelle de Kinshasa. Ces chefs des partis politiques doivent aller plus loin, c'est-à-dire en démissionnant de toutes les institutions pour mettre en place une dynamique avec les peuples, la société civile et les partis politiques de l'opposition. C'est là le signal fort de leur désaccord. Sinon, ils nous distraient en profitant du même système qu'ils décrivent. Mais aussi, quand ces chefs des partis politiques proposent l'enrôlement des nouveaux majeurs, pensent-ils que cela peut se faire en moins d'une année? Avoir des prêts, ils ont réussi leur pari, les glissements ou une transition.
J'ajoute une réaction qui va dans le même sens, honorable Mouindo. C'est Imourani Sapro qui nous écrit de Kindo Maniema qui dit « Le G7 vient d'exposer à la limite d'humilier le président de la République. S'ils avaient la bonne volonté de le conseiller, qu'est-ce qui leur avait empêché de le voir en personne et de lui dire tous ses problèmes ? Donc pour eux, le président de la République n'entend que quand on lui parle à haute voix. Le peuple congolais est déçu de cette façon de faire la politique, honorable Mouindo. »
Oui, c'est pratiquement la même question qui est revenue même l'intervenant tout à l'heure. Alors, je crois qu'il faut que je réponde une fois pour toutes.
Allez-y.
D'abord, la lettre a été adressée au chef de l'État. Et des copies ont été données à tous les membres du bureau politique. Ce n'était pas une lettre adressée à la presse. Il se peut qu'une des lettres est tombée ou est arrivé à la presse par cette voie, par des voies que nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela que, quand on en parle, nous devons en parler. Mais il faut rappeler ici que ce n'est pas la première lettre qui a été écrite. Nous avons fait des avertissements, nous avons essayé d'ouvrir les débats au niveau interne. Ce débat n'a pas été nécessaire, ce débat n'a pas produit de résultats. Au contraire, les faits que nous sommes en train de dénoncer ont malheureusement été amplifiés. Puisque je reviens maintenant au fond. Il s'agit de la question des élections. On ne prête pas des intentions à personne. Aujourd'hui, nous sommes à un mois des élections provinciales qui ont été régulièrement programmées. Pourquoi elles ne vont pas être organisées, puisqu'il se peut maintenant qu'on est dans l'impossibilité en matière de pouvoir les organiser? Tout simplement puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir les organiser. Alors, nous sommes à l'intérieur. Est-ce que vraiment ce sont les moyens qui manquent pour pouvoir organiser les élections provinciales?
Et vous qui êtes à l'intérieur, pensez-vous que c'est la volonté qui manque?
Laissez-moi continuer. Deuxième chose, les élections du gouverneur. La loi de programmation a dit, après l'installation du gouverneur, 15 jours après, il faut l'élection d'abord des bureaux définitifs et puis l'élection du gouverneur des provinces. Le gouverneur des nouvelles provinces, élire le gouverneur. J'étais député provincial il y a 5 ans. Élire le gouverneur des provinces, ça demande quels moyens? Ça demande seulement qu'on fasse des urnes. Je vous dis par exemple que les cautions payées par les candidats gouverneurs de province suffisent pour organiser les élections des gouverneurs de province, si tout est dit du pays. Mais on nous dit aujourd'hui que la République démocratique du Congo et son gouvernement sont incapables financièrement de financer les élections des gouverneurs des nouvelles provinces. C'est des faits qui démontrent effectivement qu'à ce niveau-là, il y a un problème de volonté qui s'affiche. Et nous disons ceci, au lieu de faire de l'hypocrisie, au lieu de faire des jeux de cache-cache, mieux vaut que nous puissions exprimer clairement notre point de vue et dire si l'intention inavouée, si le non-dit, c'est de dire on n'organise pas les élections pour rester au pouvoir, alors là, c'est une stratégie suicidaire. Et c'est ce que nous avons dit et nous continuons à l'exprimer de cette manière-là. Alors la question qu'on nous pose ici, c'est de dire est-ce que pourquoi vous ne voulez pas quitter la majorité?
Jusqu'où pouvez-vous aller? Parce que c'est déjà la troisième lettre.
Je voudrais le dire, oui. Là, dans la première lettre, d'abord la première lettre qui a été faite, les premiers communiqués qui étaient faits par les mouvements pour les renouveaux, seul, il était dit que la question principale du respect des délais constitutionnels, du respect des compromis de San City, cette question-là, c'est une ligne rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il sera clairement dit que nous allons au glissement ou nous allons au troisième mandat, nous ne saurons plus rester ensemble. Ça a déjà été dit de manière la plus claire. Ce qui s'est fait aujourd'hui, pour répondre à tout ce qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore dit qu'on va glisser.
Mais vous sentez du moins, vous sentez les menaces venir?
Mais nous sentons effectivement qu'on est en train de nous pousser à une période où il va être impossible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est pour cela que nous le disons avant. C'est celui qui a posé la question, est-ce qu'on peut organiser l'enrôlement avant? Oui, la CENI avait déjà prévu l'enrôlement des électeurs avant les élections présidentielles. Ils avaient dit dans le programme que ça pouvait commencer au mois de janvier et se terminer au mois de juin. Et nous voulons sonner la sonnette d'alarme vite, puisque si les moyens ne sont pas donnés à la CENI en temps, ce qui ne vaut pas organiser cet enrôlement et que donc ça va avoir des conséquences sur l'élection présidentielle.
Ne faudrait-il pas, honorable Nzangi, quitter carrément un système que vous décriez?
Non, vous savez, nous sommes la majorité présidentielle avec une charte qui nous guide. Cette charte qui nous guide, c'est ça qui nous a amené à être ensemble avec les chefs de l'État, avec les autres partis de la majorité présidentielle. Nous l'avons dit dans notre lettre. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait un seul point pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Le point, c'est le point de l'avenir ou de la succession, en fait, après les choses. Pour nous, il faut absolument qu'on respecte la Constitution, qu'on organise des élections transparentes pour que, à 2016, si nous savons bien manager les choses, que nous puissions avoir un nouveau président, puisqu'en fait, la Constitution que nous avons interdit au président qui est à place de pouvoir se représenter.
Merci.
C'est pour cela que nous disons ceci.
Très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, très rapidement, nous disons ceci. Il faut absolument que nous puissions dire les choses à temps, puisqu'il ne faut pas que nous puissions être pris à court en organisant des choses qui vont empêcher à ce qu'il y ait des élections et amener le pays dans une situation chaotique.
Merci. Monsieur l'ambassadeur Atundouya, pour vous, cette réaction qui nous vient de la province de l'Ituri.
Rachid Hirachomik et de Mambasa à province de l'Ituri. La majorité présidentielle a du pain sur la planche. Ce pain est celui de ne pas faire fi d'oreille. Car, considérant le poids politique que représentent ces partis, on dirait qu'il n'y a aucun doute de croire que le plan de glissement qui vient d'être dévoilé n'a pas eu consentement de tous les membres de cette famille politique. Ainsi, privilégions un atterrissage à douceur au consentement de tous les copilotes.
Monsieur l'ambassadeur Atundou.
C'est malheureusement la conséquence de ce comportement basé sur les sous-entendus et des malentendus. J'ai suivi attentivement l'honorable. Il a peine à justifier son comportement, au regard même de notre charte. Nous avons un secrétaire général. On l'ignore, on passe chez le chef de l'État. Pourquoi ? C'est le bureau politique qui traite de ce genre de problème. Donc, c'est une simple présomption. En plus, la vie politique se construit sur trois éléments. C'est d'abord un combat d'idées. Ensuite, c'est un combat de conviction, un combat de procédure, un combat d'engagement. De toute évidence, nous ne partageons plus la même conviction. De toute évidence...
Et donc le divorce est consommé.
Non, de toute évidence, la procédure n'a pas été respectée. De toute évidence, ils ne sont pas engagés avec nous à relever le défi que constitue l'organisation des élections. L'organisation des élections, il ne suffit pas de les déclamer. Il faut le mettre en pratique. Et Dieu seul sait si les problèmes ne sont pas réels. Et c'est la raison pour laquelle il y a une certaine légitimité dans cette démarche de dialogue politique. Alors... Vous voyez que même l'opinion y perd son latin. Logiquement, les signataires jouent leur crédibilité. Alors, pour qu'ils soient vraiment crédibles vis-à-vis de l'opinion, ils devaient tirer deux choses, deux conséquences. La première, c'est quitter toutes les responsabilités qu'ils occupent du fait d'être de la majorité présidentielle.
Dans toutes les institutions.
Oui. Deuxièmement, alors, c'est de quitter... La majorité. Alors, vous voyez qu'ils sont en train de tergiverser, de tergiverser. Et moi, ça me fait très mal, parce que ce sont des gens de valeur, et malheureusement, ça me rappelle, moi qui suis chrétien, un certain épisode de Jésus-Christ. Judas avait trahi le Christ, il a continué à le fréquenter assidûment pour achever sa trahison. Alors, il ne faut pas donner cette impression. La liberté de la conscience et de l'expression, c'est dans la Constitution. Si vraiment ils sont convaincus de présomptions qu'ils nous prêtent, eh bien, la logique et même leur crédibilité exigent qu'ils quittent, qu'ils posent un acte fort.
Monsieur l'ambassadeur, au point 14... je dirais même au point 15, ils disent qu'il n'y a pas d'homme providentiel, mais on a suivi dans la presse certains cadres de la majorité dire qu'il n'y a que le président Kabila, il n'y a pas d'autres Congolais capables de diriger la nation. N'ont-ils pas raison de tirer la sonnette d'alarme?
Non. La démocratie, je vous le répète, c'est deux choses. La liberté d'expression, la liberté de penser. Vous ne pouvez pas avoir combattu un régime autocratique pour verser dans l'imposture d'une idée sur les autres. Mais si Kinkié pense que Kabila est le seul, je ne peux pas empêcher à l'honorable de penser que non, Kabila n'est pas le seul. C'est peut-être, je ne sais pas qui, quelqu'un de nous, quelqu'un des sept signataires qui est... Mais ce qui dérange ici, c'est le fait de ne pas accepter que l'autre pense autrement que vous. C'est le fait de ne pas accepter sa défaite démocratique. Lorsque vous ne parvenez pas à convaincre les autres par des arguments politiques et autres, eh bien, c'est une défaite politique, donc il faut assumer.
Avant de donner la parole très rapidement au professeur Mahindo, monsieur l'ambassadeur à Tundu, la majorité, à travers cette situation, ne devrait-elle pas revoir sa configuration? Cela n'est-il pas urgent?
Bon, de toute évidence, je crois que le sénateur Cheikh Tundu l'a dit, le bureau politique va se réunir et tirer toutes les conséquences, n'est-ce pas? Et nous, en tant que démocrates et républicains, bien, nous allons attendre la position officielle de la majorité présidentielle et nous conformer d'après la discipline républicaine.
Merci. Professeur Mahindo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Moba.
Moi, c'est Kipo Kajaps, hein, à partir de Moba au Katanga. Suite au silence du gouvernement par rapport au financement des élections, cette interpellation est la bienvenue. Toutefois, elle vient avec un grand retard, puisqu'on sait que le Congolais accepte facilement qu'on viole sa constitution. Nous venons de consentir à l'échec des élections provinciales et locales. Pourquoi allons-nous nous alarmer si les autres échéances ne sont pas organisées à temps? Y a-t-il des élections plus constitutionnelles que d'autres?
Professeur Mahindo.
Oui, alors, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a les... en effet, il me semble que les élections législatives et l'élection présidentielle ont quand même des contraintes constitutionnelles plus fortes que les autres élections. Puisqu'il y a les mandats sont fixés dans la Constitution. Alors que pour les autres élections, il y a possibilité de pouvoir reporter ça sans beaucoup faire souffrir notre pays par rapport à ça. Donc il me semble qu'il vaut mieux avoir une bonne élection, surtout en ce qui concerne les élections qui sont techniquement les plus faciles à organiser, mais aussi politiquement les plus sensibles, parce que ça peut entraîner des conséquences graves sur la vie de notre nation. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on, si vous voulez, qu'on privilégie qu'on voudrait, on est tenté de privilégier les élections législatives et la présidentielle en se disant on peut faire attendre les élections locales et provinciales. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de démocratie à la base, bien au contraire. Il faut que nous puissions avoir une démocratie à la base bien consolidée pour que les pays puissent aller mieux, pour qu'on puisse avoir une grande démocratie au niveau national. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette réaction du Katanga.
Professeur, je posais la question tout à l'heure à l'ambassadeur à Tundu de savoir si, dans ces conditions, la majorité présidentielle ne devrait-elle pas revoir sa configuration, et cela urgemment.
Oui, évidemment, ça pose un vrai problème. Vous savez, Jean Béchler dit que le pouvoir s'exerce de trois manières, trois modalités. Il y a la puissance, il y a l'autorité et il y a la direction. Alors là, ce que je constate, il y a véritablement une faiblesse dans ce pouvoir en ce moment, puisque je vois le pouvoir de la majorité au sein même de la majorité. Il y a manifestement une dissidence, opposition aux décisions de la majorité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on tire des conclusions pour savoir qu'il y a plus de gens qui sont exclus ou qui doivent être exclus de la majorité parce qu'ils partagent les mêmes intérêts. Puisque même les gens qui sont dans cette situation, quand je regarde les signataires, je vois qu'ils peuvent constituer une importante puissance politique au niveau de l'Assemblée nationale ou des autres institutions. S'ils s'étaient ralliés au moins dans les deux dernières sessions de notre Parlement, session d'avril et session extraordinaire, ils auraient pu obtenir de bonnes décisions. Parce que leur lettre, ça date de cette période-là. Au lieu de faire ce qu'ils nous font là pour nous distraire, ils auraient pu s'allier avec les députés de l'opposition pour pouvoir faire échec aux différentes lois qui sont passées au cours de ces deux sessions passées, extraordinaires et ordinaires d'avril de notre Parlement. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut le prendre avec beaucoup de réserve, leur déclaration là.
Professeur, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission et donc il faut déjà conclure dans ce contexte. Comment vous percevez la suite du processus électoral en RDC?
Alors, pour moi, ce que je vois par rapport aux élections, il me semble que on est déjà en plein dans ce que nous on appelle ici les glissements. On est déjà dedans, donc on n'aura pas les élections dans les délais prévus là, au moins pour les premières élections. Alors, il faut oublier ça. Il me semble qu'on doit aller tout droit, se concentrer à partir de maintenant sur les législatives et la présidentielle, préparer ça en révisant les fichiers électoraux et puis préparer tout le reste. Voilà ce que moi je dirais. Sinon, on va tout rater et on va amener le pays vers une situation incontrôlable.
Et qu'est-ce que vous pensez de la solution dialogue?
Alors, il me semble que si on veut faire un dialogue strict au niveau de pour quelques jours, ça peut être nécessaire, mais il me semble qu'on a les institutions pour ça. Le Parlement est là pour parler. Les autres institutions sont là. La CNI peut rassembler les gens pour parler des élections, tout ça. Donc, on n'a pas besoin de créer encore d'autres structures extraordinaires qui vont bouffer l'argent, qui vont demander si on manque d'argent pour faire les élections. On ne va pas encore faire un dialogue qui va demander un budget qu'on n'a pas non plus. Voyez-vous, il faut être réaliste. Profitons des institutions qui sont là et faisons le travail dans le cadre des institutions.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, pour vous permettre de gagner quelques secondes sur votre temps, l'ambassadeur Chioki Tundu a parlé du dialogue, mais dans leur lettre, le G7 dit « À n'en point douter, le dialogue au point 16, le dialogue projeté sera voué à l'échec s'il n'est pas assis sur une volonté ferme de tous d'affirmer l'intangibilité de notre Constitution et d'en respecter les dispositions en ce qui concerne particulièrement les valeurs fondamentales de solidarité nationale, de liberté d'expression et des manifestations, les échéances électorales et l'alternance politique.
Préjugé parce que le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Minaku, a rappelé plus d'une fois, même le porte-parole du gouvernement, M. Mende, a rappelé qu'il n'est pas question de toucher, de ne pas respecter la Constitution. Mais il faut respecter la Constitution dans sa globalité. Il ne faut pas avoir un respect sélectif. Il faut être honnête. C'est pour cela qu'il faut être transparent. Il faut être honnête. Nous avons des difficultés réelles qui exigent aujourd'hui que nous puissions nous rencontrer. Notamment, parler en toute transparence des contraintes des élections.
En guise de conclusion?
Mais c'est ça. Donc, pourquoi ne pas en parler? Mais je pense qu'ils doivent réfléchir par deux fois, compte tenu de leur responsabilité au sein de la classe politique en tant que membre de la majorité. Et en plus, je ne suis pas sûr que leur point de vue, c'est le point de vue de leur parti, des militants.
Merci, honorable Nzang. Et conclusion?
La conclusion, c'est qu'effectivement, nous devons à ce moment ici nous concentrer sur les élections, faire en sorte que à décembre, on ait un nouveau président élu dans la transparence, dans la tranquillité, pour garantir que cette alternance soit une alternance à douceur et réussir le pari de la démocratie. C'est la seule solution que nous avons pour l'instant, sinon nous entrons dans une période qui va être très difficile et nous, on ne veut pas que ça se passe comme ça.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.